France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Mathias Alléon à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
C'est ici et maintenant que tout va basculer. Dans quelques instants, je vais nommer les traîtres parmi vous. Qui va gagner ce jeu, traître ou loyaux?
Je pensais pas qu'on pouvait se faire duper à ce point-là.
Je suis venue faire un carnage.
Ils sont perfides.
Mais je sais pertinemment que t'es traître.
Mais est-ce que t'es pas en train de me dire ça parce que t'es traître?
Ça me dégoûte.
Ça les rend complètement tarés.
J'ai le droit de gueuler.
Je pensais tout connaître après la politique, mais c'est bien pire ici.
La puissance du jeu.
Extrait d'un jeu diffusé sur M6 intitulé Les Traîtres, dans lequel la traîtrise est obligatoire. Dans la vraie vie, le traître est rarement un héros et c'est tant mieux. La trahison y est même si répandue qu'une contre-trahison devient vitale pour protéger le socle de notre communauté humaine. Vincent Cespedes et Vincent Aguélé sont nos invités. Le premier publie La Société de la Trahison, paru chez Albin Michel. Le second co-dirige avec Franck Favier un essai historique publié aux éditions Passé Composé. Il s'intitule Traître, nouvelle histoire de l'infamie. Vincent Cespedes, vous écrivez que le jeu, justement les traîtres, dont on vient d'écouter un extrait, vous a rappelé une expérience, l'expérience de Stanford, prestigieuse université américaine, une expérience qui a été menée dans les années 70, qui consistait en quoi ?
Qui consistait, c'est un prof de sociologie qui a divisé ses étudiants en jouant des jeux de rôle, les matons et les gardiens, les matons qui sont des gardiens et les prisonniers. Et sa théorie, c'était que l'uniforme fait le sadisme. C'est pas la petite enfance, c'est pas l'histoire vécue, c'est simplement la fonction. Quand on a du pouvoir et qu'on peut en abuser, ben on n'hésite pas. Et effectivement, cette expérience a tourné court, puisqu'au bout de 6 jours, il a fallu l'arrêter. Ils s'entretuaient, enfin, ils étaient prêts à tous les sadismes, toutes les exactions, au nom du pouvoir qu'on leur conférait dans le cadre d'un jeu qui n'en était pas
donc,
un du tout.
Traîtrise obligatoire et la loi du plus fort, en quelque sorte.
La loi du plus fort, la loi du pouvoir, en fait, tout simplement. Et puis la possibilité d'en abuser.
Vous connaissez bien les traîtres d'M6, je crois.
Oui, j'ai participé à la seconde saison, presque à mon grand étonnement, parce que j'étais vraiment pas du tout casté, j'ai pas fait le parcours classique. Ils m'ont appelé un peu en catastrophe en disant « Vous devez remplacer une écrivaine qui s'est désistée, il nous faut l'intello de la bande. » Et moi, ça m'amusait, puisque j'avais écrit mon premier livre sur la télé-réalité naissante avec le Loft. Donc 22 ans plus tard, je me suis dit « Allez, passons de l'autre côté du miroir et voyons voir de l'intérieur comment ça se passe. »
Alors, dans votre essai La Société de la Trahison, en fait, vous traitez de traîtrise en tout genre, amoureuse, amicale, professionnelle, politique, etc. Ce qui est sûr, c'est que la traîtrise, c'est quelque chose à la fois traumatisant pour celui qui est trahi et d'universel.
Alors, c'est universel, c'est tellement universel que ça fait vraiment, à mon avis, partie de notre psychisme. Et c'est vrai qu'on a peu abordé le psychisme humain sous l'angle de la peur d'être trahi, ou la honte de trahir, ou le plaisir éventuellement de trahir. La trahison a un peu été sortie de notre conscience et de l'analyse que nous faisons de la nature humaine, finalement. On en fait un accident, alors que ça peut être structurel. Et donc, oui, effectivement, la trahison, il y en a partout. C'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, et c'est pas pour ça qu'il faut la normaliser. Et mon livre vise surtout à montrer l'infamie, comme ça a été dit avec le livre historien de notre autre invité. C'est une infamie, et ça doit rester une infamie. Et je montre qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus trop. Elle est glamourisée. Si vous voulez monter, en général, la trahison, trahison est fait partie du parcours obligatoire et on a le droit de s'insurger, mais on a perdu notre insurrection contre la trahison finalement. On est trop habitué et je veux réveiller les consciences, c'est un des rôles pour moi de la philosophie.
Ben j'espère que leur philo va essayer, va vous aider à éveiller ces consciences. Vincent Aiguillet-Vous, considérez-vous les traîtres sur le plan historique? Vous êtes conservateur des bibliothèques de Versailles, archiviste, paléographe, je ne l'ai pas encore dit. La trahison, ça a toujours existé et c'est toujours quelque chose qui est, au fond, en dehors du cadre des lois.
Alors, la trahison, oui, c'est, je pense que c'est le phénomène historique le plus répandu et le plus ancien qu'on puisse rencontrer à partir du moment où il y a des archives, bien sûr, pour le montrer. En fait, je pense qu'elle est, elle est inhérente à toute société humaine. Puisqu'en fait, on a d'un côté le bien commun, la communauté, et de l'autre, l'individu. Donc, le livre que j'ai co-dirigé avec Franck Favier fait d'abord écho des tentatives d'individus de s'affirmer face à un État toujours plus puissant. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé notre série au XVIe siècle, et non pas un peu plus tôt, pourtant il y avait de quoi dire dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais plutôt au XVIe siècle, avec justement l'émergence des États modernes.
Mais trahir, d'une manière générale, on peut toujours dire que c'est une façon de tester les limites entre l'individu, entre soi et les autres.
Oui, il y a une question de limites. Alors l'autre question, c'est quelles sont ces limites? Parce qu'au XVIe siècle, par exemple, puisque le livre commence à ce moment-là...
Mais c'est considéré comme un crime, non?
C'est considéré comme un crime, mais les traîtres que nous avons envisagés, notamment le fameux connétable de Bourbon, pour lui, il ne trahit pas. Il est victime d'une trahison de la part du roi de France. Donc, ce qui le conduit à aller changer d'allégeance. On est encore dans un schéma, on va dire, de relation de suzerain à vassal propre au Moyen-Âge, alors qu'en fait, les règles, les lois ont changé, ont évolué. On voit l'affirmation de l'État, l'affirmation, bien sûr, de la monarchie, et face à elle, des grands seigneurs féodaux qui souhaitent conserver leurs privilèges, leur indépendance, pratiquement, morale et financière, et derrière, donc, du coup, des comportements qui sont justifiés, souvent, d'ailleurs, d'un point de vue religieux ou autre.
Mais la trahison, c'est la, comment dirais-je, c'est la profanation...
Absolue. Oui.
Absolue.
Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je suis parti dans l'introduction du fait qu'à partir du moment où Dieu vous confère la possibilité du langage, eh bien, lorsque vous reniez votre parole, en fait, c'est trahir cette...
C'est un blasphème.
C'est un blasphème, voilà. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la trahison, depuis les lois romaines, est considérée comme l'un des pires crimes qui soient et vous expose aux pires peines. Évidemment.
Beaucoup de traîtres célèbres. Commençons par celui-ci, extrait du film « La vie de Jésus », « The Life of Jesus ».
En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir.
Oh. Qui est-ce, Seigneur ?
Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais.
Mais où vas-tu aller, Seigneur ?
Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard.
Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi.
Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois que tu ne me connaissais pas.
Vincent Céspedes, c'est Judas qui trahit Jésus. Il y a même un point Judas?
Ah oui. On parle de points Godwin dans les réseaux sociaux lorsqu'une conversation converge vers l'idée que l'autre est du côté des nazis et d'Hitler et du coup ça met fin à la conversation, une sorte d'accusation extrême. Et moi je vois qu'il y a un point Judas de ceux qui dans les réseaux sociaux, dans les polémiques violentes, véhémentes, disent à l'autre qu'il est traître. Une fois que vous êtes qualifié de traître, c'est très dur de s'en dépêtrer et finalement vous tombez dans le camp du mal. Évidemment ça met court à la discussion, c'est une façon caricaturale de camper l'autre comme étant le démon. Et évidemment, en général, ce sont les traîtres à l'humanité, les traîtres à la justice qui qualifient les autres de traîtres. C'est très, très, très fréquent. Dans Judas, on a vraiment vision d'une trahison assez claire. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'étymologie du mot trahison. Trahison, tradere, c'est donner à l'ennemi, livrer. Hein. Il y a l'idée de livraison.
Il y a aussi sur le plan étymologique un parallèle à faire avec tradition, mais ça on en parlera.
Exactement. D'ailleurs, il y a le fameux proverbe, hein, trahir, c'est, traduire, c'est trahir. Il y a l'idée de livrer à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'était un peu une découverte pour moi quand j'ai creusé ce thème, qui est assez inexploré en philosophie, il faut le dire. C'est qu'en fait, on est trois dans la trahison. Il n'y a pas simplement le traître et le trahi, il y a un dédicataire, celui qui va recevoir les bénéfices de la trahison, qui n'est pas forcément le traître. Et avec Judas, on l'a de façon un peu paradigmatique. Judas livre Jésus aux Romains, à l'ennemi, et souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut essayer de décrypter quel est le dédicataire d'une trahison. Souvent, si on reste enfermé dans une vision duale, il m'a trahi, elle m'a trahi, on ne comprend pas ça sert qui. Et ça, c'est intéressant, et j'ai découvert que le dédicataire peut être une cause abstraite. C'est pas forcément quelqu'un en chair et en os, ça peut être un aïeul défunt, la mémoire d'eux, ça peut être une vision comme l'Empire, comme la vérité, comme... Et donc c'est assez intéressant, par exemple, des violences dans un couple, bien sûr il y a l'homme et la femme, mais il y a aussi ce que ça fait gagner en points, le fait d'être violent par exemple avec sa conjointe, c'est la masculinité dominante qui gagne des points, qui est dédicataire d'un acte violent. Et ça c'est très important pour comprendre... La mécanique de la trahison qui est toujours le basculement d'une allégeance.
Et Socrate, ça a été un point Judas avant la lettre ?
Socrate, c'était un point Judas avant la lettre ? Non. Alors oui, il a été accusé effectivement de corrompre la jeunesse. Oui, effectivement, mais il s'en est peu débattu finalement. Il s'est c'est quelqu'un d'assez spécial, Socrate. Il faut revenir dans l'Athènes bouillonnante où la dimension politique est vraiment là. La trahison, c'est beaucoup plus politique que psychologique. C'est la fusion des deux, bien sûr. J'avais traité dans un livre précédent l'ambition. L'ambition ou l'épopée de soi, il y a 12 ans. Et pour moi, la trahison, c'est un peu le tome 2 de cette réflexion sur ces notions à cheval entre la psychologie et la politique, des notions qui font l'histoire, des notions qui marquent des événements énormes et qui s'ancrent dans l'intime, qui s'ancrent dans la relation humaine. C'est assez passionnant de voir que la philosophie n'est pas allée sur ce terrain, alors que franchement, tous les grands tiroirs de la philosophie résonnent, l'histoire, la passion, la relation à l'autre.
Vincent Aguélé, trahison, tradition, on l'a vu, mais la tradition, vous dites que c'est une question, vous écrivez que c'est une question de sentiment à géométrie variable, c'est-à-dire ça dépend du contexte, ça dépend des motivations et ça dépend aussi du point de vue.
Oui. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Mmh. À ma connaissance, il n'y avait pas que Judas qui était concerné là. Il y a Saint-Pierre aussi, parce que celui qui va justement, entre guillemets, trahir le Christ trois fois avant le chant du coq, c'est ce qu'on appelle le reniement de Saint-Pierre. Donc, en fait, il y a Judas qui livre les informations pour que Jésus soit arrêté. Et derrière, on a Saint-Pierre qui refuse de reconnaître qu'il est lié à Jésus au moment où on l'interroge. Donc là, ça permet justement de parler de géométrie variable, parce qu'en fait, Saint-Pierre, c'est celui qui crée l'Église derrière, notamment en l'installant à Rome, quand Judas, lui, demeure la figure du mal absolu. Et puis donc derrière, en effet, il y a une tradition qui s'instaure, une tradition qui consiste à nommer et désigner tel ou tel personnage comme étant le méchant, qui va d'ailleurs devenir une figure littéraire.
Vous écoutez L'Heure Philo, Vincent Cespedes et Vincent Aguélé sont nos invités. Nous parlons de la société de trahison ainsi que des traîtres à travers l'histoire. Eh bien tiens, puisque nous évoquions Judas, le voici dans cette chanson de Léo Ferré.
T'en veux pas mon vieil Iscariote, tu m'as donné pour quelques ronds, sans doute que t'avais tes raisons. Je t'en veux pas mon vieil Iscariote, c'est pas de ta faute si t'es comme ça. Mais ce qui me chagrine au pas d'état, c'est que tu disais mon vrai petit pote, comme on n'en fait plus sur la terre. Et puis puis je t'en fous, tu m'as fait faire comme un miteux, comme un pauvre mec. C'est ça, vois-tu, qui me désespère. Tes magnes et tes salamalais, tes embrassades, etc. Avec une gueule comme celle que t'as. Bravo mon vieux, chapeau mon gars, t'as du talent, il faut que tu pousses. Tu devrais donner dans la rousse, on est peinard, on peut trahir. Seulement voilà, il faut choisir, être dégueulasse ou bien seigneur. Toi, t'as pas de mal, tu n'as pas de cœur. Je t'en veux pas, mon vieil Iscariote. C'est pas ta faute, c'est dans la peau, c'est des trucs puissants, les banknotes. Mais une autre fois, vas-y, Franco, viens en me voir et je te ferai le prix. C'est pas que je râle pour ce que je t'en dis, t'as pas pensé à mon standing. Tu t'as gouré et c'est tant pis. La prochaine fois, ne l'oublie pas, mon vieux copain, mon vieux Judas, je valais beaucoup plus cher que ça.
Place à Talleyrand et Napoléon, film de Sacha Guitry, Le Diable Boiteux, qui date de 1948.
Le jour de notre première rencontre, vous m'avez fait le serment de ne jamais me trahir sans m'en avoir avisé. Vous en souvenez-vous ?
Je m'en souviens fort bien, sire.
Or, vous avez précisément négligé de le faire.
De vous trahir ?
Non, de m'en aviser.
Je ne vous ai pas trahi, sire.
Trahant !
Pas encore. Mais je vous en avise. Et vous en avisant, je ne vous trahis pas.
Je ne sais pas ce qui me retient.
Ah, je n'en sais rien moi-même. Et je m'en étonne aussi. Singulière aventure, n'est-ce pas, que la nôtre? Et curieux sentiments qui nous attachent l'un à l'autre. Je n'y vois pas ça d'amitié, je n'y vois pas de haine. Et ce serait de l'amour que je n'en serais pas surpris, car je vous aime et vous m'aimez.
Alors, Vincent Guélé, je vous vois sourire en écoutant ce dialogue, un commentaire sur cette histoire.
Ah bah c'est du Sacha Guitry.
Tout craché.
Tout craché. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ainsi que les choses se sont vraiment déroulées entre Napoléon et Talleyrand. Mais ce qui est sûr, en effet, c'est que Talleyrand a pris les devants pour prévenir la chute de Napoléon. L'a peut-être encouragé où il y a contribué d'une certaine manière, mais il y a encore débat chez les historiens à ce sujet. C'est ça qui est intéressant, la question n'est pas toujours tranchée, et notamment sur le fait que, finalement, quel était l'idéal de Talleyrand ? Il l'a trahi pour se débarrasser de Napoléon, pour sauver le pays. Ça, c'est encore des questions qui sont bien, bien ancrées. D'ailleurs, on peut se féliciter qu'on n'aura jamais la réponse complète, puisque Talleyrand n'a jamais justifié réellement son action. Contrairement à beaucoup d'autres personnages de l'époque qui ont écrit mémoire sur mémoire pour dire non, mais je ne suis pas un traître, j'ai suivi des indications qu'on m'avait données.
Ou c'est le maréchal Ney qui avait promis de ramener... Oui. Napoléon dans une cage de fer ?
Oui, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est le procès du maréchal Ney qui nous donne la plus belle définition de la trahison que l'on peut avoir dans la langue française. Puisqu'en fait, le maréchal Ney est défendu par un grand avocat de l'époque, Maître Berryer, père, et celui-ci donne la définition réelle de ce qu'est la trahison. Il dit « c'est un acte qui est prémédité ». Et donc, si on n'a pas la préméditation, eh bien, le fait de, par exemple, de basculer dans un camp, d'ailleurs, ça serait intéressant de voir par rapport à l'émission de télé-réalité dont on a fait allusion tout à l'heure, s'il y a une véritable préméditation ou pas, quelle est la part de la subjectivité aussi ?
Vincent Cespedes.
Alors ça, c'est fondamental, la préméditation. Et pourquoi, en fait, ça s'explique? Parce que quand vous trahissez, il y a un changement de camp, il y a une livraison de l'autre à l'ennemi, et vous devez préparer vos arrières pour ne pas être accusé de trahison. L'obsession du traître, c'est de ne jamais être accusé de trahison. Il risque de l'être. Donc, même dans les trahisons entre amis, s'il y a une trahison violente qui a lieu, vous devez faire en sorte que des amis vont vous suivre, vont vous justifier, vont plaider votre cause. Et ensuite, j'analyse dans mon livre la puissance autodisculpatoire du traître. C'est un fin rhéteur, le traître. Il est capable de réinventer l'histoire pour dire « je n'ai pas trahi, on m'a trahi ». Le traître présente toujours sa trahison comme une vengeance personnelle. Et même quand il est pris sur le fait accompli de trahison, il va réussir, et ça marche très très bien, à retourner le cerveau du trahi en lui faisant comprendre par des sophismes autodisculpatoires que finalement, alors il y en a trois, le premier, c'est j'ai une maladresse. Hein. Oupsie, j'ai trahi. Hein, désolé, j'ai mal compris ce que t'as fait. J'ai cru, voilà. Deuxième, j'ai souffert quand j'étais petit. Ça, c'est un immense argument autodisculpatoire du traître. Et puis le troisième, c'est je me suis vengé. C'est-à-dire, tu m'as trahi d'abord. C'est toi qui as commencé. Et ça marche très bien. La trahison est tellement lourde à porter, je l'ai d'ailleurs expérimenté dans ma chair lors de cette émission, on devient tous un peu des animaux, hein. Il y a quelque chose dans notre psychisme, encore une fois, qui ne veut pas être exclu du groupe, parce que ça équivaut à la mort, tout simplement, et qu'on a des milliers d'années d'évolution où être exclu du groupe, c'est mourir. Et donc, même si c'est un jeu, ce n'est plus un jeu. Tout le monde répétait ça d'ailleurs sur le plateau, ce n'est pas un jeu, il se joue autre chose. Et du coup, cette obsession de ne pas être trahi, et cette honte d'avoir été trahi, j'étais tellement bête, c'était devant moi, j'aurais dû le voir, fait qu'on va vite pardonner au traître. Le traître n'a même pas besoin de demander pardon, je parle de collègues de bureau, je parle d'amitié, je parle d'amour. Quelque part, on va justifier le traître par son acte, parce qu'on veut se débarrasser du fardeau d'être le trahi. On a honte d'être le trahi, et donc finalement on a le pardon très facile, et là aussi je m'insurge contre ça. Le pardon, pourquoi pas, moi j'adore le pardon, mais il faut que le traître nous montre très clairement qu'il a basculé dans l'autre camp, notre camp, et que voilà, il nous donne des gages par son comportement d'un vrai amendement moral de sa conduite.
Les exemples sont nombreux, historiquement parlant, Vincent Guélet.
Oui, et même trop nombreux, donc c'est pour ça qu'il y a eu une nécessité de faire des choix, notamment dans notre livre, parce que on ne pouvait pas d'ailleurs traiter seulement de cas d'individus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a également apporté des époques entières où la notion de trahison ou de la peur d'être trahi ont irrigué la société, notamment à des moments précis, la Fronde sous Louis XIV, la Révolution française, où en fait là ça devient une paranoïa nationale, hein, de voir des traîtres et des agents de l'étranger partout. L'affaire Dreyfus, à la fin du 19e siècle, qui divise la société en deux, le capitaine a-t-il trahi ou pas, et qui devient un enjeu presque de survie politique pour certains, à tel point que même lorsqu'ils sont mis face à la vérité, il y a un refus de l'admettre, en effet. Donc en fait, ça en dit long aussi sur l'état souvent des sociétés. Une société qui est malade va s'inventer des traîtres. Un état totalitaire va inventer des traîtres. Et c'est ça aussi qui doit nous interpeller en tant qu'historien. C'est d'abord d'éviter toute moralisation, parce que finalement on épouse un camp contre un autre. Je sais bien que la neutralité en histoire est une affaire aussi très compliquée, mais en matière de trahison, par exemple dans le cas de la très complexe année 1814 et l'année qui suit, 1815, l'année des girouettes, comme on veut les appeler, c'est que tout le monde a une bonne raison de changer de camp, par exemple. Parfois même le bien commun peut être amené comme justification.
Mais ça veut dire qu'il peut y avoir en quelque sorte une dynamique, à un moment donné, une dynamique de la trahison, et que ça concerne des aujourd'hui on dirait des réseaux entiers, mais des confréries, et qu'il y a une conspiration un peu générale. Enfin, cette atmosphère-là, en tout cas.
C'est l'impression d'une atmosphère de conspiration. Mais en réalité, souvent, de conspiration, il n'y en a guère. Ouais. À part quelques... Par exemple, dans le cas de 1814, la chute de Napoléon, elle a pu être aidée, hâtée, par le fait que, par exemple, le maréchal Marmont décide de rendre armes et bagages à l'ennemi, et que donc il va devenir le symbole de la trahison de la fin de l'Empire. Mais en fait, Marmont n'a fait que, finalement, épargner quelques semaines de plus. Donc, on a beaucoup d'exemples précis. La question toujours, c'est l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis d'un individu qui représente l'État. Et si on considère que cet individu a lui-même renié les principes fondateur de la sauvegarde de la société, il est nécessaire de s'en éloigner. Voilà. Donc, en gros, il faut toujours se méfier de ces discours. C'est ce qui a conduit la moitié du comité de salut public à la guillotine. Hein. De toute façon, ils se sont tous accusés de trahison les uns les autres. Ils ont nagé dans une atmosphère putride en permanence. Ils sont allés jusqu'à inventer des faux complots. Par exemple, Robespierre était jaloux que Marat ait été assassiné dans sa baignoire. Il lui fallait un assassin aussi. Ils en ont trouvé une pauvre gamine qui s'appelait Cécile Reynaud. Donc, de toute façon, je crois qu'il y a une part de nature humaine à analyser. Qui peut échapper parfois à l'historien.
Des fauves sur une montagne et des reptiles dans un marais. C'est Victor Hugo qui disait ça. Exactement. Du comité de salut public, et c'est assez parlant. La trahison, Vincent Cespedes, elle ne tombe pas comme ça d'un coup. Je veux dire, c'est un processus. Il y a des mécanismes, des stratégies.
Il y a des mécanismes, alors c'est des parties d'échecs extrêmement profondes et avec des coups de billard à 18 bandes, enfin c'est vraiment spectaculaire. Alors justement là je m'inscris totalement en faux avec ce qui vient d'être dit en toute camaraderie intellectuelle, parce que pour moi la trahison, j'y trouve, il y a une boussole. C'est pas... Alors, cette thèse qui vient d'être dite, c'est un peu la thèse, dans une préface, nous avons Raymond Aron, dans un livre, d'ailleurs le seul livre de philo vraiment sur la trahison, c'est André Terrive, en 51. Et Raymond Aron fait une belle préface, et elle explique finalement cette thèse un peu de relativisation. Finalement, la trahison, c'est la nature humaine, et dans une France nazifiée, De Gaulle aurait été le traître, finalement. Une sorte de tout se vaut. Ben non, justement. Et peut-être que la période qui me permet de dire non, et la trahison a une polarité précise, c'est 39-45. Et la collaboration. Je pense pas que la trahison, c'est un peu, comment dire, une sorte de phénomène humain météorologique, hein, où tout d'un coup, hop, c'est trahison. Bien sûr que dès qu'il y a pouvoir, il y a trahison, évidemment. Et dès qu'un autre pouvoir arrive ou prend le dessus, évidemment qu'il y a une redistribution des rôles et donc on se tire dans les pattes. Ça, pour moi, c'est le premier degré. Mais profondément, la trahison, qu'est-ce que c'est ? C'est afficher des idéaux et faire l'inverse. C'est afficher des idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de progrès, et faire régresser l'humain vers la barbarie, faire régresser l'amour vers la haine, et faire régresser finalement nos vies vers un état de survie et de loi du plus fort. Donc pour moi, il y a vraiment, au fondement, une fidélité à l'humanité qui doit exister. Et on peut qualifier profondément de traître à l'humanité ceux qui vont prétendre cette fidélité à l'humanité et faire exactement l'inverse, c'est-à-dire faire couler le sang, exploiter, torturer, pratiquer le racisme, pratiquer des choses qui vont réduire l'humain dans son humanité. Et c'est pour ça que moi, alors c'est philosophique, c'est vrai que pour l'historien c'est plus compliqué, mais c'est la boussole que j'apporte, c'est de dire que la trahison, toute trahison ne se vaut pas. Et d'ailleurs, trahir un traître, comme par exemple fomenter un attentat contre Hitler pour que Hitler, alors qu'on est nazi, il y a même des grands professeurs d'université de droit qui ont pris leur carte du parti pour pouvoir trahir le parti. C'est ce que j'appelle la contre-trahison. Et alors ça, c'est du billard à 28 bandes. C'est-à-dire que je vais me mettre très proche du traître à l'humanité. Et encore une fois, la boussole, c'est traître à l'humanité. On n'est plus dans des causes, on n'est plus dans un tout se vaut, on sort du relativisme. Et voilà pourquoi moi je mets de la morale. Et je pense que nous sommes dans une époque où la morale, on l'a trop justement relativisée, ce qui fait qu'on se fait trahir, mais on dit finalement c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, pour l'anecdote, c'est que pendant le jeu, eh bien, on était 3-4 hein, sur les 18 à sentir une colère sourde en nous-mêmes. Il y avait Laura Flessel, qui est noire. Et quand je parlais avec elle, je sentais que derrière ce jeu, il y avait une résonance de lutte contre le racisme, de la discrimination. Elle voulait, par exemple, elle a été un peu effacée au montage, mais elle était révoltée contre le principe même d'être loyale contre des traîtres. Et on parlait ensemble et on sentait que c'était presque une révolution politique qu'on voulait faire dans le jeu, ce qui est impossible parce que tout est fait pour faire gagner les traîtres ou faire gagner ce que la production veut faire gagner. et moi-même, avec une ascendance juive ashkénaze du côté de ma mère, avec beaucoup de drames dans la famille du côté de ma mère, eh ben ça résonne. Ça résonne, évidemment que ça résonne. Et donc c'est très important de voir que la fidélité à l'humanité, c'est ce qui permet de faire une boussole entre, voilà, par exemple, des gens qui vont essayer de trahir les traîtres à l'humanité, et on peut pas le dire que c'est des traîtres pour moi. Ce n'est pas des traîtres, c'est des gens qui sont des héros, et il faut leur reconnaître ce statut-là.
Parlons-en de votre mère. À toi, maman adorée, jamais traître, toujours là, et à toutes les mamans du monde, veilleuse d'avenir.
Alors, ma mère a plus de 80 ans, donc ça, je touche du bois.
C'est ce qui est écrit. C'est
la dédicace.
C'est la dédicace.
Et oui, maman adorée, maman, pas mère. Je distingue la mère qui peut trahir. Je parle beaucoup des trahisons d'enfance qui peuvent être du fait des pères, mais aussi des mères. Je crois qu'il y a beaucoup plus de pères que de mères statistiquement, mais là, c'est de l'ordre de la psychologie sociale qu'il faudrait essayer de voir un peu tout ça. Je pense que le masculin est beaucoup plus incité à trahir que le féminin, même si on trouve de l'horreur partout. Et Médée est là pour nous montrer que, voilà, il faut se méfier comme ça de l'essentialisation. Mais maman, une maman pour moi, voilà, ou un papa peut-être, hein, c'est être inconditionnellement dans le camp de l'enfant. Et je trouve que voilà, c'est en tout cas je reconnais ça. C'est pour ça que je dis à toutes les mamans du monde veilleuses d'avenir et non pas à toutes les mères, parce que je sais bien que l'âme humaine est complexe et peut être sombre d'où qu'elle vienne.
Vincent Aguilé, quand on a été trahi. On est forcément effondré. Il peut y avoir à ce moment-là cette passion triste qu'est la rancune et la vengeance, pas très loin.
Oui. Est-ce que vous faites allusion à un personnage en particulier?
C'est vous l'historien.
C'est moi l'historien. D'abord, il faut bien savoir qui peut s'estimer en effet trahi. D'abord, pour commencer, c'est la communauté. C'est-à-dire l'ensemble qui forme ce qui va devenir ensuite la nation. Et là aussi, on a parfois des niches intéressantes qui se sont créées. Par exemple, dans l'essai de Thierry Sarment sur le rôle des princes au XVIIe siècle, et même aussi un peu avant au XVIe, on voit que on peut encore justifier un acte de trahison au nom de la religion, au nom des principes fondateurs du féodalisme et autres, et que finalement il va y avoir des batailles de libelles, notamment au XVIIe siècle, pour attaquer par exemple la politique de Richelieu ou celle de Mazarin, c'est-à-dire celle de l'État central, à laquelle l'opinion publique va se montrer assez sensible. Un siècle plus tard, ça devient totalement impossible de pouvoir justifier de prendre les armes contre le roi au nom d'idéaux même plus religieux ou autres. Ça devient un acte de haute trahison et on met en danger justement l'équilibre et bientôt la nation. Donc en fait, on voit une sorte de basculement historique s'opérer. Ce qui ne veut pas dire qu'en effet, on ne ressent pas la trahison de la même façon. Je pense que c'est un sentiment qui est le même. Si on regarde déjà au plus profond de la Bible, le roi Saul qui s'oppose à David est un cas particulièrement gratiné de personnage qui est capable du pire comme du meilleur, parce qu'il a très peur d'être trahi. Et donc il va assassiner, il va enlever la liberté à certaines personnes, tout simplement sur la foi de soupçon. Donc oui, il y a de la rancune, il y a parfois même de la haine.
Et un peu de paranoïa.
Et de la paranoïa.
Mmh. L'astrophysicien et philosophe Aurélien Barraud, c'était lors d'une conférence à la Sorbonne en 2023, il faut resituer les propos qu'il tient dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte environnemental.
Les résistants et les révolutionnaires sont toujours des traîtres. Des traîtres à l'inertie, des traîtres à l'évidence, des traîtres à ce qu'ils auraient dû être, suivant les attendus alentours. La trahison peut évidemment prendre le visage de l'infamie, quand elle relève d'une suraffirmation égotique et répressive. Elle constitue sans doute alors l'abjection suprême. Mais lorsqu'elle devient un geste de désenclavement, un coup fatal à l'ankylose des dominances entérinées, par mise en danger de celui qui les dénonce, elle incarne alors provocation pernicieuse et audacieuse, presque indolente dans son incongruité, le seul courage qui, je crois, mérite de se revendiquer tel.
Vincent Cespedes, il peut y avoir cette image justement du traître courageux qui veut être loyal, et ça peut être la trahison à ce moment-là, dans certains cas, peut être aussi un acte de résistance.
Alors cette thèse, c'est la thèse de Gilles Deleuze, hein, qui, pour nuire à la bêtise, il faut aussi trahir. Et Sartre le disait déjà, il disait « moi je trahis deux fois, je trahis les vieux parce que je suis du côté des jeunes », il disait ça quand il était plus tout jeune, et puis « je trahis les bourgeois parce que je suis du côté des, voilà, des prolétaires, des ouvriers ». Donc, alors c'est pour ça que je crée ce concept de contre-trahison. Précisément, si je mets une boussole à la trahison, une boussole morale, en disant que toute trahison in fine, c'est une trahison de l'humain. Ouais. Et d'ailleurs, les traumatismes de la trahison le montrent. Quand vous avez été trahi, et j'analyse ça, alors là, c'est, en psychologie française, il y a très peu de choses. Il faut aller du côté des États-Unis. Judith Herman et d'autres ont bien analysé les traumatismes de la trahison. Il y a toute une psychologie du traumatisme de la trahison qui vaut le traumatisme de guerre. Moi, je veux dire, vous êtes complètement éclaté et vous perdez confiance en l'humain. C'est-à-dire qu'on vous trahit dans une histoire personnelle et quelque part, vous n'allez plus pouvoir donner votre confiance au prochain. Et c'est intéressant, cette notion de rancune qui a été dite, j'en fais vraiment le marqueur de notre société de la trahison. Nous ne sommes pas du tout avec un peuple qui a une perte de confiance, c'est encore gentil de dire ça. Nous sommes avec un peuple qui est rancunier d'une trahison qui est devenue systémique. Et cette rancune, elle n'est pas forcément négative. Quand vous êtes trahi, avoir de la rancune, quelque part, c'est une forme de lucidité pour ne plus être trahi, pour être plus vigilant. Et puis, alors oui, effectivement, pour la vengeance éventuelle. Donc, c'est important de voir que dans cette société-là, où la trahison, finalement, est devenue système, eh ben, effectivement, on peut trahir les traîtres. Et c'est d'ailleurs la seule façon de gagner au jeu auquel j'ai participé, c'est qu'à un moment, il faut semer la zizanie chez les traîtres.
Parce que, mais on peut aussi trahir au nom d'une morale qui est la sienne. Si on prend, par exemple, le cas des lanceurs d'alerte, un cas comme Edward Snowden, par exemple, il pense avoir bien fait. Il est considéré comme un traître, mais traître ou héros dans ce cas-là?
Traître ou héros, tout dépend de l'état de dévastation de l'autre, de celui qu'on trahit. Et encore une fois, il en va finalement de la survie de l'espèce humaine. C'est une trahison pour moi, c'est ce qui nuit à la survie globale. Hein. On fait pas de caste, on fait pas de famille, à la survie globale de l'espèce humaine. Et c'est conscient en fait. Kant nous dit, c'est assez joli chez Kant. On peut retenir ça de Kant. Hein. La maxime de ton action, tu dois l'universaliser. Si tout le monde fait comme toi, est-ce que ce monde est viable? Et l'écologie peut être comprise à l'aune, le combat pour l'écologie peut être compris à l'aune de cette loi morale. Hein. Universalise ce que tu fais et vois si le monde est viable, vois si l'espèce humaine continue de vivre. Donc effectivement, il faut trahir les traîtres à l'humanité, mais c'est pas de la trahison, puisque moi j'y mets une boussole, c'est la contre-trahison. Mais la contre-trahison, c'est pas forcément être un Snowden ou un héros. La contre-trahison, c'est juste maintenir une loyauté quand tout le monde vous dit de plus être loyal avec la personne. La contre-trahison, c'est aimer lorsque tout le monde nous dit non, tu ne peux pas l'aimer lui pour telle et telle raison. C'est sortir des logiques de pouvoir et affirmer des logiques de loyauté. Je distingue bien la fidélité et la loyauté. La fidélité est contractuelle et en général, quand on trahit, c'est une question de fidélité. Alors que la loyauté, elle est vivante, elle danse. Je ne te promets pas d'être loyal demain. Je vais voir comment tu te comportes. Et donc, quelque part, on est dans une danse beaucoup plus, à même de voir ce qu'il se passe. Et je suis pour une société, qui converge vers la loyauté au principe. Dès que le pouvoir affiche des choses et fait le contraire, nous avons presque un devoir de contre-trahison.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Shell of Man, Sarah Gray, une jeune fille en feu. Faites des pieds à la tête pour la musique. Peace.
how to work it past the past. I'm still hung up on cobwebs. I lasted this long in a paper house.
Vincent Guay, les traîtres d'hier peuvent-ils devenir les héros de demain? Est-ce qu'un traître peut devenir une figure nationale? Et est-ce qu'un héros peut devenir un traître à son tour?
Alors, des traîtres qui deviennent des héros, on en a quelques exemples, mais ce sont vraiment des raretés, des anomalies dans l'histoire.
Ça se compte sur le doigt d'une main.
Voilà, c'est-à-dire par exemple, on a Gonzalo Guerrero, qui est cité au Mexique, qui est cité dans le livre. On ne sait même pas d'ailleurs si ce personnage a réellement existé, en tout cas tel qu'il a été décrit par l'historiographie espagnole puis mexicaine.
Il a une sacrée gueule, hein.
Oui. C'est un personnage. Donc en fait, juste pour redire qui il est par rapport aux auditeurs. Gonzalo Guerrero, c'est un Espagnol qui, dès la conquête du Mexique, épouse la cause des Amérindiens. Et donc, va épouser une Mexicaine indigène et se fondre dans la population. Pour les Espagnols, pendant des siècles, c'est une figure de traître absolue. Et aujourd'hui, au Mexique, il est considéré justement comme le personnage qui rachète, d'ailleurs, un certain nombre de caciques qui ont pu collaborer avec les Espagnols. On est dans cette dimension de collaboration et autres qu'on retrouve évidemment dans d'autres circonstances chez nous.
Il y a un autre personnage dont j'aimerais que vous nous disiez un mot, c'est Kiesling, son nom d'ailleurs c'est un mot qui dans le monde anglo-saxon est devenu synonyme de traître. Kiesling, il était norvégien.
Oui, alors Kiesling c'est un parcours qui est presque celui du traître majuscule, l'ontologie de la traîtrise, on va dire. C'est-à-dire que il part du fait d'abord d'appartenir à un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale. Il s'inscrit dans un mouvement très pacifiste. Il travaille pour, je crois, la Croix-Rouge. Et ensuite, après, il bascule totalement dans la collaboration avec le nazisme.
Par anti-bolchévisme ?
Par anti-bolchévisme, peut-être, je sais pas. Peut-être plus par esprit totalitaire, oui. en réalité, qu'anti-bolchévisme. Parce que finalement, il avait visité la Russie, notamment pendant la guerre civile, on le voit pas on le voit pas totalement anti-bolchevique. Je pense que c'est quelqu'un qui développe un esprit de contradiction, profondément aussi, qui est profondément antidémocrate.
Il a fini fusillé.
Et il a fini
en 1933, il fonde un parti nationaliste, national, voilà, et autoritaire. Enfin, donc c'est vraiment la cause du fascisme est son idéal.
Nicole Prieur, elle est essayiste et thérapeute. Alors là, c'est une autre facette de la trahison.
Si on accepte effectivement, et même que si on donne du sens à la défaillance de nos parents, si on la comprend plutôt que de leur en vouloir, à ce moment-là, on va vers une grande réconciliation. Et à ce moment-là, il y a ce que j'appelle le traître éthique, c'est-à-dire que oui, je vais me situer en dehors des missions impossibles, oui, je vais m'accepter comme déloyale, oui, je vais accepter que mes parents n'aient pas pu me donner ce que j'attendais, oui, je ne suis pas un bon enfant, mais je me reconnais comme traître et déloyal, mais surtout, je reconnais ce qu'ils m'ont donné quand même au-delà de leur fragilité. Car sauf dans les situations vraiment très pathologiques, on a toujours reçu quelque chose d'un peu positif de nos parents. Et pour moi, grandir, c'est changer justement de regard, c'est ne plus regarder vers les manques de notre enfance, mais regarder vers ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas forcément ce que j'attendais.
Ça peut peut-être s'appeler la résilience, soit, mais il y a dans les familles des histoires de traîtrise, et vous en parlez d'ailleurs, Vincent Cespedes, mais aussi dans le domaine du travail, mais aussi, on peut penser à la médecine, à l'église, enfin, la liste est longue.
Ah bah, la liste est longue. Nous sommes dans une société de la trahison. Tous les jours, je fais des stories Instagram où je mets juste le hashtag de mon livre, et puis c'est bon, parce que entre Trump, entre tous les discours qu'on a, c'est phénoménal. Alors, bah voilà, Nicole Prieur, pour moi, c'est une confusion. Voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, très éthique, ça y est, on est dans la démoralisation totale. Elle confond, selon moi, la défaillance. Évidemment, ouais. Tout le monde est fragile, tout le monde est défaillant. C'est pas ça, trahir. Ouais. Trahir, c'est pas juste être défaillant. Oh, j'aurais pu mieux t'aimer. Non, c'est je dis que je t'aime et que je te fais profondément du mal. Et je te traumatise. Et on sait bien la violence qu'il y a dans les familles, parfois. Les enfants passent de sacrés mauvais quarts d'heure, parfois, dans les familles. C'est un peu facile de dire, mais oui, mais ils t'ont quand même donné des choses. Non. Il y a des destins qui sont brisés, parce que, dans le système familial comme ça, fermé, que l'on a, notamment en Occident, ce manque d'ouverture fait que ceux qui ont le pouvoir, à savoir les parents, s'ils ont quelque chose, voilà, de pathologique, d'égotique et de névrosé, l'enfant en prend plein la figure et il risque après de devenir traître lui-même à l'humanité.
Et d'un mot, parce que vous en parlez aussi, l'éducation nationale, à sa façon...
L'éducation nationale. Ne me chauffez pas là-dessus. Là, c'est
non,
le bac.
Non, on a plus le temps que je
voilà,
vous chauffe.
C'est le
alors,
bac
toute façon, c'est bon.
Et j'aide plein de jeunes pour le bac philo. Et bon, j'ai plein de retours de milliers de jeunes. Et non, les idéaux affichés ne sont pas ce qui se fait en réalité. Quand vous avez une augmentation des phobies scolaires et des enfants qui vont avec la boule au ventre parce qu'ils vont être jugés personnellement, je dis qu'il faut totalement tout réformer à l'aune d'ailleurs de l'intelligence artificielle et de toutes les révolutions cognitives qui sont là. On doit se mettre autour de la table, et quand je dis autour de la table, pas que les professeurs, pas que les recteurs, mais la société civile et aussi les enfants. À un moment, il va falloir qu'on écoute les enfants qui, toute leur enfance, toute leur adolescence, vont à l'école, et qu'est-ce qu'ils ont à dire de ça ? Et ça, la société veut rester sourde à ça, et c'est bien dommage. Il faut vraiment réformer l'éducation nationale profondément, et que nous soyons tous acteurs de cette réforme.
Je ne vais pas vous chauffer davantage, mais là aussi, dans le domaine du travail, parce que vous en parlez dans votre essai, la trahison ultime, c'est quand on contraint au fond les gens à conclure un certain nombre de compromis dans leur boîte et qui font qu'ils deviennent des traîtres.
Des dissonances éthiques en veux-tu, en voilà. Alors la jurisprudence nous a donné le mot de harcèlement managérial. Si on entend par le management l'idée que on va bien travailler ensemble, si vous mettez le mot harcèlement à côté, vous comprenez qu'on est dans quelque chose de systémique où la trahison est permanente.
Vincent Cespedes, merci. La société de la trahison, c'est donc publié chez Albin Michel. Vincent Aguélé, vous avez donc co-dirigé avec Franck Favier Traître, nouvelle histoire de l'infamie. C'est aux éditions Passé Composé. Et puis chez ce même éditeur, il y a aussi un autre livre de vous qui sort. Alors là, vous tout seul, Un printemps à Naples,
Ça nous change un peu les idées ?
Oui et non.
Oui et non.
En fait, c'est le deuxième volume d'une série de quatre livres que j'entreprends sur l'occupation de grandes capitales à l'époque napoléonienne. Donc évidemment, vous pouvez imaginer qu'il y a le lot de retournements de veste, de préparation de trahison et autres. Et donc le premier volume, c'était sur Vienne. Et là, à Naples, c'est encore différent parce qu'on a le cas d'une société qui est habitué à changer souvent de maître, de tutelle. Et donc, le retournement de 1806 est important d'un point de vue stratégique européen, mais en réalité, pour la population napolitaine, ça, c'est juste un nouveau souverain qui arrive, qui remplace un autre.
Donc, c'est instructif plus qu'amusant. Merci en tout cas, Vincent Aiguélé. Merci, Vincent Céspedes, d'avoir été nos invités.